La bataille du Dauphin, elle aussi, s'était portée en avant, Montjoie à Saint-Denis, et n'ayant reçu aucun retour ni reflux, poursuivit son progrès. Les premiers rangs, haletant déjà de leur marche, s'engagèrent entre les mêmes haies qui avaient été funestes à Clermont, butant sur les chevaux et les hommes abattus là, un petit moment fait. Ils furent accueillis par de mêmes nuées de flèches tirées de derrière les palissades. Il y eut grand bruit de glaives heurtées et de cris de fureur ou de douleur. Le goulot étant fort étroit, très peu se trouvaient au choc, tous les autres derrière eux pressés et ne se pouvant plus mouvoir. Jean de Landas, Voudenay, le sire Guichard aussi, se tenaient, comme ils en avaient l'ordre, autour du Dauphin, lequel aurait été bien en peine, et ses frères de Poitiers et de Berry comme lui, de bouger ou de commander aucun mouvement. Et puis, encore une fois, à travers les fentes d'un aume, quand on est à pied, avec plusieurs centaines de cuirasses devant soi, le regard n'a guère de champ. À peine le Dauphin voyait-il plus loin que sa bannière, tenue par le chevalier Tristan de Menglay. Quand les chevaliers du comte de Warwick, ceux-là qui avaient fait Audrehem prisonnier, fondirent à cheval sur le flanc de la bataille du Dauphin, il fut trop tard pour se disposer à soutenir charge. C'était bien le comble. Ces Anglais, qui si volontiers se battaient à pied et en avaient tiré leur renommée, s'étaient remis en selle dès lors qu'ils avaient vu leurs ennemis venant à l'attaque démontée. Sans avoir à être bien nombreux, ils produisirent la même carambole, mais plus durement, dans le corps de bataille du Dauphin que celle qui s'était faite toute seule parmi les gens du duc d'Orléans, et avec plus de confusion encore. « Gardez-vous, gardez-vous » criait-on aux trois fils du roi. Les chevaliers de Warwick poussaient vers la bannière du Dauphin, lequel Dauphin avait laissé choir sa courte lance et peinait, bousculé par les siens, à seulement soutenir son épée. Ce fut Voudenay, ou bien Guichard, on ne sait pas trop, qui le tira par le bras, en lui hurlant « Suivez-nous, vous devez vous retraire, monseigneur !» Encore fallait-il pouvoir. Le Dauphin vit le pauvre Tristan de Menglay navré au sol, le sang lui fuyant de la gorgière comme d'un pot fêlé et coulant sur la bannière aux armes de Normandie et du Dauphiné. Et cela, je le crains, lui donna de l'ardeur à filer. Landas et Voudenay lui ouvraient chemin dans leur propre rang. Ses deux frères le suivaient, pressés par Saint-Venant. Qu'il se soit tiré de ce mauvais pas, il n'y a là rien à redire, et l'on ne doit que louer ceux qui l'y ont aidé. Ils avaient mission de le conduire et protéger. Ils ne pouvaient laisser les fils de France, et surtout le premier, aux mains de l'ennemi. Tout cela est bon. Que le Dauphin soit allé aux chevaux, ou qu'on ait appelé son cheval à lui, et qu'il y soit remonté, et que ses compagnons en aient fait de même, cela est juste encore, puisqu'il venait d'être bousculé par Jean à cheval. Mais que le Dauphin, alors, sans regarder en arrière, s'en soit en allé d'un roi de galop, quittant le champ du combat, tout comme son oncle d'Orléans un moment auparavant, il sera malaisé de jamais faire tenir cela pour une conduite honorable. Ah, les chevaliers de l'Étoile, ce n'était pas leur journée. Saint-Venant, qui est vieux et dévoué serviteur de la couronne, assurera toujours que ce fut lui qui prit la décision d'éloigner le Dauphin, qu'il avait déjà pu juger que la bataille du roi était mal en point, que l'héritier du trône commis à sa garde devait coûte que coûte être sauvé, et qu'il lui fallut insister fortement et presque ordonner au Dauphin d'avoir à partir. Et il soutiendra cela au Dauphin lui-même, brave Saint-Venant. D'autres, hélas, ont la langue moins discrète. Les hommes de la bataille du Dauphin, voyant celui-ci s'éloigner, ne furent pas longs à se débander, et s'enfuirent à leurs chevaux, eux aussi, criant à la retraite générale. Le Dauphin courut une grande lieue, comme il était parti. Alors, le jugeant assez en sécurité, Voudenay, Landas et Guichard lui annoncèrent qu'il s'en retournait se battre. Il ne leur répondit rien. Et que leur aurait-il dit ? Vous repartez à l'engagement, moi je m'en écarte, je vous fais mon compliment et mon salut. Saint-Venant voulait également s'en retourner, mais il fallait bien que quelqu'un restât avec le Dauphin, et les autres lui en firent obligation, comme aux plus vieux et aux plus sages. Ainsi, Saint-Venant, avec une petite escorte qui se grossit vite, d'ailleurs de fuyards tout affolés qu'il rencontrait, conduisit le Dauphin s'enfermer dans le gros château de Chauvigny. Et là, paraît-il, quand ils furent arrivés, le Dauphin eut peine à retirer son gantelet, tant sa main droite était gonflée, toute violette, et on le vit pleurer.